Bonjour, mesdames, messieurs. Nous avons à nouveau ce midi une émission proche de vos préoccupations et de votre quotidien à vous proposer. On s'intéresse aux réseaux sociaux. Quels services rendent-ils aux communautés, aux individus, aux organisations, aux entreprises? Est-ce qu'ils possèdent les qualités qu'on leur prête de briser l'isolement et de favoriser la solidarité? Est-ce qu'on exagère la dépendance qu'ils peuvent créer, la diffamation ou l'intimidation qu'on y rencontre, ou est-ce qu'on se soucie trop peu de ces phénomènes-là? Mes invités, Michel Blanc, spécialiste stratégie web, marketing de contenu et médias sociaux, Christiane Boucher, qui est administratrice du groupe Facebook Jovienne-Saint-Joseph de Sorel, Dominique Brassard, directeur des communications de la ville de Sorel-Tracy, André Champagne, communicateur, Laurent Cournoyer, président de CJSO et de Cournoyer Communications, Luc Denoncourt, journaliste artistique, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Micheline Goudreau, administratrice du groupe Facebook « J'ai grandi à Sainte-Anne-de-Sorel », Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, Suzanne Lalande, communicatrice, et Alexandra Millette, à laquelle on parle dans quelques instants, spécialiste en gestion des médias sociaux. La tribune et ses premiers invités après la pause.
L'hiver, la neige, le vent, les tempêtes, mais ce qu'il y a de plaisant, ce sont les randonnées en pleine nature. Pour les planifier, ne manquez pas les conditions sentiers VTT, diffusées tous les vendredis à 8h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions sentiers VTT est une présentation de la halte des 103 îles et de Performance NC. Durant tout le mois de février, optez pour un décor chaleureux, invitant et stylé avec Meubles André Beaulieu et profitez d'un rabais équivalent aux deux taxes sur tout sauf les électroménagers. Grâce à notre vaste sélection de mobilier de chambre à coucher, de salon et de cuisine, de matelas, vous trouverez à coup sûr ce dont vous cherchez tout en économisant. Visitez le meublesbeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouveautés et promotions. Pour un mobilier durable et de qualité, passez chez Meubles André Beaulieu dès maintenant. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse aux réseaux sociaux cet après-midi, dont Facebook est certainement le plus connu, avec 2,91 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Ma première interlocutrice est Alexandra Millette, dont l'entreprise A majuscule se spécialise précisément en gestion des médias sociaux. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sylvain.
Est-ce que vous êtes personnellement, à titre privé, là j'entends, une grande utilisatrice des médias sociaux?
Oui, effectivement. Personnellement, je passe beaucoup de temps, évidemment, sur les différentes plateformes, mais je publie peu de contenu, là, plutôt sur Instagram, en fait. Là, c'est ma plateforme préférée, mais je consomme beaucoup et je publie peu, effectivement.
Croyez-vous qu'on exagère la dépendance que les réseaux sociaux peuvent créer chez les individus ou qu'au contraire, on sous-estime le phénomène?
Ben, il y a des études quand même là, qui appuient le phénomène, effectivement. Depuis le début de la pandémie, la consommation est en croissance. Il y a des études comme l'ATN numérique publie régulièrement, en fait. Là. Donc, effectivement, c'est en croissance. Puis je pense que non, faut pas minimiser ni la durée, la consommation des gens, ni l'effet que ça peut avoir, effectivement.
Est-ce que c'est un effet, un tard, appelons ça comme ça, largement compensé par un bénéfice comme celui de briser l'isolement?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on brise l'isolement? Ça peut probablement briser l'isolement. Moi, je fais partie de plusieurs groupes, en fait, où je vois l'espèce d'esprit de solidarité. Où les gens posent des questions, on a des réponses, on sent qu'on fait partie d'une communauté. Donc là, on peut aller chercher justement le brise d'isolement dont on a besoin sur un sujet X ou une situation X.
Votre métier...
Oui, c'est ça. C'est là que j'arrivais. Moi, je travaille plutôt avec les entreprises.
Voilà. Votre métier, c'est de conseiller les entreprises puis les organisations dans la gestion des médias sociaux. Est-ce qu'elles ont beaucoup à tirer à bien les utiliser?
Bon, Moi, je travaille avec les entreprises. Mon entreprise va avoir 10 ans cette année. Donc, dans les 10 dernières années, Sylvain, j'ai vu évoluer énormément la région, les entrepreneurs et la mentalité aussi qu'on avait par rapport à ça. Donc, les médias sociaux se sont vraiment imposés en cours de route. Puis je pense que les entrepreneurs, les gestionnaires ont constaté qu'il fallait être présent. La pandémie a accéléré beaucoup de choses aussi, dont l'ancrage des boutiques, des restaurants, des commerces sur Facebook et Instagram, ce qui n'était pas le cas avant. Puis l'habitude des consommateurs de s'y référer aussi. Donc vraiment, moi je pense que justement, la pandémie a vraiment accéléré ça, mais dans les 10 dernières années aussi, moi j'ai vu l'évolution là, des entreprises, des entrepreneurs de la région.
Alexandra, merci, ça va vraiment trop vite. Merci de m'avoir accordé cet entretien.
Merci, au revoir.
Au revoir. On se dirige à Longueuil, nous avons le plaisir de parler à sa nouvelle mairesse, Catherine Fournier. Bonjour Catherine Fournier.
Oui, bonjour.
Un petit clin d'œil avant d'aborder notre sujet du jour, Catherine. Le territoire de Pierre-de-Sorel, vous le connaissez bien, en particulier Massuville.
Oui, exactement. C'est le village d'origine de ma maman et de toute sa famille. Donc oui, je connais très bien Sorel et ses environs. Ma mère, c'est une Minot, donc je sais que c'est quand même une famille présente dans la région.
Catherine Fournier, vous faites grand usage des réseaux sociaux. C'est le cas comme mairesse, ce fut le cas comme députée. Vous y avez vu, je pense à Facebook en particulier, vous y avez vu quoi? Vous y avez vu un outil de communication assez extraordinaire pour passer vos messages sans le filtre des médias?
Oui, on peut le dire ainsi. En fait, pour moi, je considère en fait les réseaux sociaux comme étant une façon de pouvoir s'adresser directement aux citoyens où on peut développer justement une relation assez directe en fait dans l'information, dans la communication. Donc, je pense qu'a priori, les réseaux sociaux sont un outil très positif pour nous permettre, par exemple, d'expliquer des situations, d'apporter des nuances, de justement aller au-delà de parfois un message plus formaté médiatiquement qui va être très contraint, un 10 à 15 secondes, parfois même dans des bulletins télévisés. Donc, en ce sens-là, c'est le côté positif. Puis moi, c'est certain que je les utilise beaucoup également pour vulgariser de l'information ou même partager des réflexions, que les gens puissent apprendre à me connaître aussi. C'est une authenticité là, derrière les messages qui sont partagés.
On retrouve sur Facebook menaces, intimidations. Vous avez vous-même goûté à cette médecine-là, ce n'est pas un secret. Dans la balance des bénéfices et des inconvénients, vous continuez à trouver autant d'inspiration sur ces réseaux ou est-ce que c'est également devenu une source d'inquiétude et de stress de vous y trouver?
C'est certain qu'il y a ce côté négatif là, que vous évoquez bien. Mais bon, moi, je suis dans la vie peut-être une éternelle optimiste et je préfère voir le verre à moitié plein. Donc, je considère quand même quand on fait la balance, effectivement, qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ceci dit, c'est certain qu'il y a une recrudescence, je crois, de la haine ou, disons, du climat toxique sur les réseaux là, depuis quelques mois. C'est malheureux et je pense qu'on doit y voir. Je pense que les gouvernements, de façon générale, ont été trop laxistes par rapport aux entreprises qui possèdent ces réseaux sociaux, notamment en ce qui a trait aux algorithmes qui sont cachés. En fait, c'est une formule qu'on ne connaît pas trop, mais qui, on le sait, a une influence sur les comportements et sur la psychologie humaine. Donc ça, à mon sens, c'est un aspect qui est plus préoccupant des réseaux sociaux. Mais si on revient au message reçu, c'est certain que dans les dernières années, on a fait grand état là, de l'intimidation qui peut avoir cours envers des personnalités publiques ou des hommes ou des femmes politiques par le biais des réseaux sociaux. Mais en même temps, on parle très peu du fait que ça nous permet aussi d'avoir une reconnaissance pour le travail qu'on fait dans la mesure où, moi, par exemple, je reçois énormément de bons commentaires aussi à l'égard de mon travail, beaucoup d'encouragement et, à mon sens, ça supplante et de loin le plus négatif que je peux recevoir par ces réseaux-là.
OK. En 30 secondes, est-ce que vous devez faire avec votre équipe un gros travail de modération? Comment vous parvenez à faire respecter là, ce qu'on appelle la nétiquette?
C'est pas évident, puis... Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est député, les ressources sont quand même limitées au bureau de circonscription et tout ça. Donc moi, j'ai pris la parole, notamment dans le cadre de la pandémie, sur certains sujets plus polarisants, là, notamment la montée du phénomène complotiste qui m'ont valu d'être ciblée par certains groupes. Et à ce moment-là, je n'étais pas capable de faire cette modération-là toute seule, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de gérer moi-même mes réseaux sociaux. J'ai dû avoir une ressource pour m'aider, mais dans des moyens qui étaient très, très limités. Donc, c'était pas évident. Puis encore aujourd'hui, je garde une vigilance accrue par rapport à la modération, parce que, à mon sens, les élus ont une responsabilité de ce qui se trouve sur nos pages. Donc, c'est encore un jonglement que je dois faire un peu au quotidien. Ça dépend des périodes, bien entendu. Ça dépend des sujets abordés. Des fois, on peut le voir venir un peu plus. Mais je pense qu'on ne doit jamais non plus s'habituer et permettre qu'il y ait une prolifération là, de ce genre de commentaires-là.
Merci.
Donc, on a la responsabilité.
Merci, Catherine. Merci, Catherine Fournier, de nous avoir accordé ce bref entretien.
Merci à vous.
Au plaisir. On revient chez nous avec pour parler au grand Manitou, tiens, appelons-le comme ça, des communications de la ville, Dominique Brassard. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Sylvain. Quel terme!
Vous êtes passé, Dominique, de journaliste à Radio-Canada à directeur des communications de la ville de Sorel-Tracy. Comment s'est passé le saut de l'autre bord de la clôture?
Bien, ça, je vous dirais que ça s'est fait quand même assez bien. Bon, je comme on dit, j'étais rendu là dans ma carrière, dans ma vie personnelle, professionnelle et tout ça. Et je vous dirais que ce que j'aimais comme journaliste et que je retrouve en étant aux communications d'une ville, c'est ce contact avec les gens, avec les citoyens. Puis ça, je peux vous dire que vous parlez des réseaux sociaux aujourd'hui, on l'a quotidiennement.
La ville de Sorel-Tracy est présente sur Facebook, Instagram, YouTube.
Oui, pour l'instant, c'est trois plateformes essentiellement. On souhaite éventuellement développer d'autres. C'est sûr que ce que ça prend toutefois, c'est ça prend des ressources, ça prend des gens pour être capable de faire cette espèce de modération qui ne prend jamais de pause, que ce soit le soir, la fin de semaine. Donc, on essaie de s'organiser. On est en train de travailler là-dessus pour voir les prochaines années, les prochaines étapes. On souhaiterait être un peu plus présent, notamment sur le plan économique. Ça reste à voir, mais c'est dans les projets.
Qu'est-ce qu'on consulte le plus? Est-ce que c'est votre site web ou votre page Facebook de la ville?
Je vous dirais que c'est partagé parce que les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes. Les gens qui vont consulter notre site Internet vont souvent aller chercher une information précise. Facebook, nous, on l'utilise, bon, oui, comme outil d'information, mais il y a aussi tout, moi, je dirais, il y a une vocation presque communautaire dans ça qu'on développe, sur laquelle on travaille. Par exemple, les gens qui vont consulter notre page veulent aussi peut-être que on les invite à participer à des activités. Vous savez que le vendredi, durant l'hiver, on fait ce qu'on appelle, nous, notre top 5, notre top 6 des activités à faire durant la fin de semaine. Bon, les gens qui vont consulter ça vont souvent s'échanger, bon, inviter des gens sous la publication à participer avec eux. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes clientèles qui vont aller là, tandis que pour les gens qui vont aller sur notre site Internet, ils vont peut-être aller s'informer sur la réglementation. On est beaucoup plus dans l'information pure et dure.
Oui, c'est ça. Je me suis promené sur la page Facebook de la ville ce matin. On y annonce les assemblées du conseil, mais on communique pas les décisions qui y sont prises. Pourquoi? Est-ce que c'est pour éviter qu'on ne discute de ces décisions pour que ce ne soit clairement pas un espace politique, votre page Facebook?
Non, je le vois pas comme ça. En fait, nous, c'est sûr qu'on publicise les décisions qui sont importantes. C'est sûr que effectivement, on fait pas nécessairement de compte-rendu à chaque séance, mais quand il y a une nouvelle qui ressort du lot, là, c'est sûr qu'on va la publiciser. Par exemple, on l'a fait avec l'octroi là, du contrat pour les plans et devis pour le nouveau complexe aquatique. Donc, on s'en sert quand même pour l'information, mais ce n'est pas le sens premier, à mon avis. Puis c'est pas pour débattre ou quoi que ce soit, parce que moi, de mon point de vue, le débat, s'il est fait de façon constructive, il a tout à fait sa place, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord avec une décision. Je pense que les gens, c'est tout à fait sain de questionner, d'interroger les gens qui ont pris les décisions. Mais je vous dirais que c'est sûr qu'on peut pas, à chaque semaine, je vous dirais simplement préparer un compte-rendu simplement par manque de temps. On va à l'essentiel, la nouvelle qui est la plus importante, on la communique.
Merci, Dominique. J'ai le pied sur l'accélérateur ce midi. C'est ça va trop vite. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci. Salut bien. Suzanne Lalande. Suzanne Lalande est une spécialiste en communication. Elle a travaillé pour de grandes firmes, sa propre boîte et en communication politique. Bonjour, Suzanne.
Bonjour.
Suzanne, vous êtes vous-même abonnée à Facebook. Il y avait une page personnelle. Quelle évaluation vous faites des services que rendent les réseaux sociaux aux communautés, aux individus, aux organisations? Est-ce qu'ils possèdent les qualités qu'on leur prête là, de briser l'isolement, de favoriser la solidarité?
Bien, j'ajouterais que je suis membre, je suis sur Facebook personnellement, mais je gère aussi deux pages d'organismes. La page Facebook la Bibliothèque de Saint-Aimé-Massouville, d'une part, et d'autre part, la page Facebook de l'organisme Maman va à l'école, qui est un organisme qui attribue des bourses aux mamans monoparentales qui reprennent les études pour un premier diplôme. Alors, j'ai les deux. J'y suis venue à Facebook, d'ailleurs, plus sur un plan professionnel, parce que je devais y être pour la personne que je représentais, et puis j'y suis restée. Alors, moi, donc, c'est plus un témoignage, là. Je suis pas une spécialiste du tout, puis je ne suis que sur Facebook, pas sur les autres réseaux sociaux. Moi, personnellement, oui, ça m'aide à briser l'isolement, ça m'aide à rester en contact avec des amis. Mes contacts sont juste des personnes que je connais ou des personnalités comme des journalistes. Alors, jamais des gens que je connais pas. Ça me permet de rester en contact avec des anciens collègues, avec des amis, avec la famille. Ça me permet de lire des choses intéressantes, de voir Michel Coulombe, mais souvent des caricatures qui me font rire, mais souvent des murales qu'il prend en photo quand il se promène en vélo qui me séduisent. Alors, pour moi, c'est un réseau important pour m'informer, parce qu'il y a quand même des articles, il y a les décrypteurs, justement, qui sont là. Mais c'est un outil puissant qui a des risques à la mesure de ses possibilités. Puis il faut faire attention, faut être conscient de ça, que ça a une certaine puissance. Et puis, il y avait un reportage en fin de semaine de Deshôtel sur l'intimidation en ligne. Il y a des décrypteurs, puis ce soir à la facture, une arnaque qui a été faite sur Facebook. Alors, faut faire attention. Je fais attention, je choisis mes contacts, je donne jamais d'informations personnelles dans ces espèces de petits jeux aux allures anodines qui te demandent le nom de ta grand-mère ou ton premier char ou ton premier voyage en avion, qui sont exactement les questions qu'on nous demande pour identifier un mot de passe.
Oui, d'accord. Je nommais en introduction à l'entrevue votre domaine de spécialité, les communications. Comment votre amour du français survit-il à la maltraitance dont le français est l'objet sur Facebook?
Oh! J'ai toujours eu par rapport, puis je me souviens quand on a ouvert, au moment de la Révolution tranquille, qu'on a ouvert l'éducation, puis que les gens sont pleins, que le niveau avait baissé. Je disais, oui, avant, le niveau était plus haut, mais c'était juste une élite. Alors, oui, le niveau a baissé, mais en même temps, ça permet à plus de monde de communiquer. C'est pas l'idéal, mais je peux pas dire que ça me choque tant que ça. Je le vois pas beaucoup, comme je dis, je choisis mes contacts. Alors, ça va arriver dans les commentaires en dessous d'un article de journal, par exemple, où je vais dire, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable comme français, c'est difficile à comprendre, mais ça me choque plus d'entendre des fautes de français de journalistes à la radio que de gens dont c'est pas le métier de communiquer.
D'accord. Suzanne, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci, à bientôt. On parle, avant d'aller à la pause, à quelqu'un qui chante et écrit sur Facebook, André Champagne. Bonjour, André.
Salut, Sylvain.
Les chansons que vous proposez périodiquement sur votre page Facebook, est-ce aussi salutaire pour votre propre morale que ça fait du bien au nôtre?
Ben, je pense que c'est au moins équivalent, mais probablement plus pour moi-même, sinon je prendrais pas le temps de le faire.
Vos talents de chanteur et d'animateur font de vous une personne en vue. Appelons ça, là, une vedette. Ce qui a été très, très longtemps réservé à peu de monde. Je parle au passé, a été révisé, me demandant si les réseaux sociaux n'avaient pas changé la donne en permettant à tout le monde de prendre la pause, puis de présenter à l'univers entier sa blonde, sa famille, son chien et sa dernière auto. Est-ce que ça vient pas démocratiser le vedettariat Facebook et compagnie?
Oui, c'est sûr. Oui. Après, ben ça dépend de ce qu'on en fait. Là. J'écoute les gens depuis tantôt. Tout le monde a des petites craintes, tout le monde a des petites réserves. Donc, effectivement, tout le monde a une tribune. c'est un vilain jeu de mots avec le contenu d'aujourd'hui, mais je me souviens la première fois, c'est drôle parce qu'en me préparant un petit peu pour aujourd'hui, je me suis revu la première fois de ma vie où j'ai ouvert le micro de CJSO à la fin des années 90. Ben, j'ai vite réalisé que j'avais une tribune, là c'était pour vrai. Là. Donc, quand on publie quelque chose sur Facebook, par exemple, ben, on est comme un peu le petit André qui ouvre le micro pour la première fois. Là. Et cette première fois-là, moi, je l'avais refermé le micro pendant quelques secondes pour prendre une grande respiration. Mais je le fais aussi maintenant, avant d'appuyer sur Enter, parfois, je prends une petite respiration, puis des fois, que j'avais écrit, ben je le publie pas.
Ouais, c'est pas par ailleurs un peu particulier qu'on ait peur qu'on nous suive à la trace avec notre cellulaire, qu'on ait peur qu'on n'ait plus aucun secret et qu'en même temps on photographie la lasagne qu'on va manger pour souper où et avec qui.
Ouais, mais ça, je pense que ça montre bien à quel point on a besoin de j'allais dire de connecter là, on a besoin de contact en fait, parce que oui, là, il y a une petite part de vantardise puis de vouloir se montrer sous notre plus beau jour. Mais en même temps, quand on publie une photo de notre lasagne, ben à quelque part, on aimerait ça que notre voisin publie son rôti de palette ou je sais pas quoi, là, tu sais. Il y a un petit peu de. Il y a une quête un petit peu, je pense, en même temps.
Oui. André, je vais terminer avec ça. Les réseaux sociaux peuvent néanmoins rendre de grands services aux communautés, aux individus, aux organisations, aux entreprises. L'ancrage, cette ressource d'hébergement temporaire pour les 16-23 ans en difficulté aux communications de laquelle vous avez travaillé, vous l'avez beaucoup fait connaître par l'entremise des médias sociaux.
Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a suscité la mobilisation. Ça a été très, très important, mais je pense que le succès, ça a été un parfait équilibre, un très bon équilibre entre l'usage des réseaux sociaux et aussi le recours au canal plus traditionnel, si on veut. Là, on avait une stratégie de communication qui était oui là-dessus, mais aussi avec des gens comme toi puis d'autres qui sont venus aux conférences de presse virtuelles, tout ça. Donc, c'est un petit peu l'équilibre. Mais c'est sûr que ce projet-là aurait jamais été, se serait jamais fait connaître aussi rapidement s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, André Champagne. Bon appétit.
Bye-bye.
Merci, André. Après la pause, Christiane Boucher, Michel Blanc et Micheline Goudreau.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Des faits divers à l'actualité politique, des combats citoyens aux prouesses sportives, CJSO est là, partout, tout le temps. Écoutez pour savoir.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse à La Tribune ce midi aux réseaux sociaux. Au bout du fil, l'administratrice du groupe Facebook Je viens de Saint-Joseph-de-Sorel, Christiane Boucher. Bonjour, Christiane.
Bonjour, Sylvain, ça va bien?
Ça va très bien. En quelle année le groupe a-t-il été créé et comment l'idée vous est-elle venue, Christiane?
En fait, c'est lors d'une occasion avec... il y avait eu un regroupement, des retrouvailles avec organisées par M. Jean Lusignan. C'était des retrouvailles pour un... voyons, pour une activité de retrouvailles des gens de Saint-Joseph, c'était une partie de golf suivie de, où je prenais des photos, suivie d'une soirée pour des retrouvailles des gens de Saint-Joseph. Moi, je prenais les photos au terrain de golf et puis dans la soirée, puis mon mari vient de Saint-Joseph, évidemment, Marc-Paul, et puis lui avait fait des affiches et puis on avait participé à l'activité. Moi, comme je viens pas de Saint-Joseph, mais j'ai pris des photos, puis là, je prenais les noms de tous les joueurs, puis dans la soirée, j'ai pris des petits films. Il y avait des gens, tu sais, connus de Saint-Joseph qui sont venus, dont Roger Frappier, et puis, Beau Suard avec un groupe, et puis plein d'autres là, qui ont joué de la musique et qui ont participé à la fête. puis, moi, j'avais dit aux gens, je vais faire un groupe, je vais déposer toutes les photos. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et puis, il y a des gens qui déposaient des photos. Il y a deux personnes, surtout une, qui déposait tellement de photos d'archives de Saint-Joseph que ceux de la fête, ils ne s'y retrouvaient plus. Fait que j'avais appelé celui qui déposait. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un groupe de Saint-Joseph? Il a dit, bien sûr. Puis là, tu pourrais déposer toutes les photos que tu veux, puis tu pourrais gérer le groupe. Et puis, bon, c'est ce que j'ai fait. Sauf que pour gérer le groupe, il y avait un petit peu plus de difficultés. Fait qu'il m'appelait souvent. Il embarquait, il débarquait sans faire exprès. Donc, finalement, je me suis retrouvée à gérer le groupe.
Avec cette responsabilité-là, c'est un groupe privé, c'est-à-dire que seuls les membres, au nombre de 1200, je pense, peuvent voir qui est dans le groupe et ce qui est publié.
Oui, c'est ça. C'est un groupe privé, mais tu sais, des gens de Saint-Joseph ou ceux qui ont un intérêt par rapport à Saint-Joseph peuvent faire une demande. Il y en a régulièrement. Dernièrement, ça avait eu un petit ralenti, mais en 2020, lors du début de la pandémie, j'en avais à tous les jours qui s'ajoutaient. C'était vraiment spécial. En fin de compte, c'était les gens de Saint-Joseph qui retrouvaient leurs souvenirs parce que ce site-là est devenu quand même assez populaire. Puis il y avait beaucoup de photos et puis d'archives de Saint-Joseph.
Oui, on se demande aujourd'hui, Christiane, dans le cadre de l'émission, quels services les réseaux sociaux peuvent rendre aux communautés, aux individus, aux organisations, aux entreprises. Est-ce que ce serait juste de postuler que des groupes Facebook comme le vôtre entretiennent et sinon même stimulent le sentiment d'appartenance à un coin de pays?
Oui, moi, c'est le sentiment d'appartenance, je pense que c'est la plus grande force de ce site-là. Les gens aiment s'y retrouver et puis déposent des photos plus anciennes, nomment leur nom, et puis ça a été vraiment, à 1100, 1200, là, je pense que c'est parce que les gens voulaient vraiment, je pense que c'était un besoin pour la population. Puis je sais qu'il y a un autre site dernièrement qui s'est formé, ça s'appelle « Je suis native de Saint-Joseph ». Je pense que c'est « Je suis née à Saint-Joseph », c'est intéressant aussi, c'est parce que là, ils veulent avoir juste, tu sais, ils vont cibler ce qu'ils veulent avoir dans leur site. Moi, ce que je trouve intéressant dans le site de Saint-Joseph, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de photos d'archives. Les seules photos, des fois, que j'ai dû intervenir, c'est quand les gens mettaient de la publicité, des ventes d'auto.
C'est ça, il n'y en a pas question sur votre site. Merci, Christiane, je dois déjà vous remercier. J'encourage les Saint-Josephois, Saint-Joséphoises d'hier et d'aujourd'hui à devenir membres de votre groupe. Ça s'appelle « Je viens de Saint-Joseph de Sorel ».
D'accord.
Merci beaucoup, Christiane Boucher.
Merci.
Michel Blanc est spécialiste en stratégie web, marketing de contenu et médias sociaux. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Vous alliez mettre de côté cette carrière pour la politique il y a bientôt 4 ans. Hein?
C'était pas l'idée du siècle.
C'est là qu'on s'est connus.
Oui.
c'est grâce à votre blog et aux réseaux sociaux que vous êtes devenu, comme vous aimez le dire, une vedette?
Tout à fait. Écoutez, j'ai commencé, ça va faire 15 ans, je n'étais pas connu du tout, et le blog, ben, c'est un outil idéal pour se faire connaître, ce qui a été le cas.
Dans vos clients, il y a plusieurs fleurons de l'industrie québécoise, ce qui vous a valu que des journalistes vous surnomment la papesse des médias sociaux.
Ben, c'est eux qui le disent, c'est gentil. Je travaille quand même aussi avec des très petites entreprises. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, je peux apprendre des deux groupes. Hein. Les multinationales, c'est passionnant, c'est payant. Par contre, c'est long, parce qu'il y a beaucoup de red tape, puis il y a beaucoup de vice-présidents qui se renvoient la balle, tandis qu'une PME, quand que le président a compris, puis il dit « on s'en va par là », ben ça bouge pas mal plus vite.
C'est ça. Alors, ces plus petites entreprises, parfois même des micro-entreprises auxquelles, ce sont des entreprises auxquelles vous partagez votre recette pour que ça marche pour elles aussi sur les réseaux.
Tout à fait. Puis, vous savez, on dit que les médias sociaux permettent aux entreprises de devenir leurs propres médias. Le corollaire, c'est qu'il faut qu'ils fassent assez de contenu pour devenir leurs propres médias. Maintenant, l'avantage, contrairement à la publicité, c'est qu'il y a une pérennité dans l'investissement. Quand vous mettez des contenus en ligne, les contenus restent. Tandis que la publicité, on va dire 50 000 $ de publicité, ben, le coût que c'est dépensé, ça fait partie du web invisible. les 50 000 de contenu, ça fait pas mal de contenu, puis ça reste en ligne. Donc, évidemment, moi, je valorise ce type de contenu-là et je valorise surtout le blog. Et les médias sociaux sont un faire-valoir du blog. Alors, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et le point de terminal, ben, ça devient le blog, ça devient le site web qui est à la fois un blog. Et c'est là qu'on peut mesurer les achats, ce qu'on appelle la conversion. Alors, c'est un peu ça le truc.
OK. Vous avez sur Facebook, je parle beaucoup de Facebook aujourd'hui parce que c'est certainement le plus, je pense que le réseau social le plus connu de nos auditeurs et auditrices, là. Vous avez sur Facebook page personnelle et page publique. Est-ce qu'on exagère la dépendance que peuvent créer chez les individus les réseaux sociaux? Facebook, là, 2,91 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Et est-ce qu'on exagère par ailleurs la diffamation ou l'intimidation qu'on y rencontre? Ou est-ce qu'on se soucie trop peu de ces phénomènes?
Ah, je dirais que c'est un mix des deux, puis je dirais qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à Facebook. Tout le monde pense qu'on se trouve une page Facebook, puis par miracle, le téléphone sonne. Il y a un algorithme qui s'appelle EdgeRank, et cet algorithme-là décide qu'est-ce qui va être présenté dans l'accueil des usagers. Et si vous êtes bon, vous allez peut-être avoir 7 à 10 % de vos abonnés qui vont voir vos contenus. Ça, c'est si vous êtes bon. Si vous êtes mauvais, vous allez peut-être avoir 1 à 2 % de vos abonnés qui voient vos contenus. Donc, si vous avez 1000 fans, peut-être que vous parlez entre 20 à 70 personnes. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour peu d'impact. Ça ne veut pas dire de ne pas être là. Ça veut dire d'être conscient des limites structurelles de ce qu'on appelle Facebook. Maintenant, la diffamation, le harcèlement, c'est vieux comme le monde, mais c'est évident que sur les médias sociaux, il y a un effet de groupe, il y a un effet d'entraînement. Et, encore une fois, ben les contenus ont une certaine pérennité. Quelqu'un qui se fait harceler, ben ça se peut qu'il se fasse harceler par une gang, ça se peut que ça reste longtemps en ligne, ce qui est très malheureux. Alors, il faut s'intéresser à ces phénomènes-là. C'est pas non plus la fin du monde, mais pour ceux qui le vivent, on dit souvent, si tu te fais harceler sur la rue, ben quand tu arrives chez vous, tu fermes la porte. Mais si tu te fais harceler en ligne, quand tu arrives chez vous, ça continue. Et c'est 24 heures sur 24. La grande majorité des gens qui sont victimes, souvent, c'est des mineurs, ce qui est encore plus triste et malheureux.
Quel genre de surveillance et contrôle estimez-vous que les médias devraient exercer sur les commentaires exprimés sur leur page? La netiquette, que doit-elle absolument proscrire? Et qu'est-il plus délicat, à contrario, qu'est-il plus délicat de proscrire?
Bien, souvent, les médias ne faisaient absolument pas de monitorage de leur propre page, parce qu'évidemment, ça entraîne des coûts. Maintenant, l'étiquette, il faut toujours avoir ce qu'on appelle une politique éditoriale des commentaires, spécifier dans quels paramètres quelqu'un va être effacé, caviardé. Et quand c'est le cas, dire vous n'avez pas respecté les commentaires, vous n'avez pas respecté notre politique des commentaires et nous avons effacé. C'est d'ailleurs un des avantages du blog par rapport à Facebook. Parce que sur Facebook, les commentaires apparaissent et vous avez le loisir ou pas de les effacer a posteriori. Tandis que sur le blog, les commentaires sont cachés par défaut et vous avez le loisir de les faire apparaître ou pas. Si vous ne les faites pas apparaître, il y a deux personnes qui le savent, vous, la personne qui n'a pas été publiée. Sur Facebook, si vous effacez quelqu'un, mais là, vous êtes le vil censeur qui ne permet pas à quelqu'un de s'exprimer.
Ah oui. Merci.
Il y a des différences structurelles entre les médias sociaux, puis évidemment entre le risque communicationnel de ces médias sociaux-là pour les organisations.
Ben, vous nous avez bien fait saisir ces distinctions-là. Merci beaucoup, Michel Blanc, de vous être prêté à ces quelques minutes d'entrevue et au plaisir.
Au plaisir, c'est un plaisir. Merci.
Merci. Micheline Goudreau, maintenant. Micheline Goudreau, oui, nous l'avons. Elle administre le groupe privé J'ai grandi à Sainte-Anne-de-Sorel, un groupe comptant 2300 membres. Bonjour, Micheline.
Oui, bonjour.
Quand avez-vous créé ce groupe et l'information à l'effet que c'est la nostalgie de votre village natal qui vous a guidé, est-ce qu'elle est juste?
Oui, c'est suite à un après-midi passé chez ma mère à regarder des vieilles photos que cette demander, là, elle m'est venue là, de partager les photos.
Oui, et quand on retrouve notamment sur le groupe justement de fort belles photos d'aujourd'hui et d'autres fois. Hein? Il y en a une quantité incroyable.
Oui, oui. Ben le but premier, c'est le groupe il a commencé comme ça. J'ai commencé par partager mes propres photos. J'ai ajouté les gens de mon Facebook que je savais que ces photos-là les intéresseraient. Et au début, tous les membres pouvaient ajouter les membres comme ils voulaient. Fait que ça n'a pas été long qu'on s'est retrouvé beaucoup de membres. Je pensais pas ça au début. Là. Je pensais pas que ça pouvait créer autant d'intérêt. Puis aujourd'hui, on a 2347 membres exactement.
Le groupe J'ai grandi à Sainte-Anne-de-Sorel, est-ce que vous avez l'impression qu'il stimule la fierté et le sentiment d'appartenance à la municipalité?
Ben moi, je pense que oui, parce que les gens, là, après avoir 8 ans, ils publient régulièrement des photos. Moi, je pensais qu'au bout de certains temps, qu'ils seraient délaissés. Puis non, j'ai encore presque chaque jour des nouvelles photos. Les gens, ils prennent des photos, puis ils mettent sur la page, ils publient. Puis il y a beaucoup de gens qui vont commenter, puis qui vont liker les photos.
Alors, on sait mieux en parcourant « J'ai grandi à Sainte-Anne-de-Sorel », d'où l'on vient et où l'on va.
Pardon?
On sait mieux en parcourant votre groupe, là, d'où l'on vient et où l'on va.
Ah, c'est hein? Que quelqu'un de l'extérieur qui regarde les photos, il a goût de déménager à Sainte-Anne.
Si le groupe est privé et qu'en conséquence, seuls les membres peuvent voir qui est dans le groupe et ce qui y est publié, tout le monde peut le trouver sur Facebook et puis faire une demande d'adhésion, hein?
Oui, oui, au fil du temps. Au début, les membres pouvaient ajouter qui voulait. Au fil du temps, j'ai dû mettre comme des petites normes, agir comme modératrice. Fait que maintenant, quand quelqu'un fait une demande au groupe, je dois accepter le membre. Je vérifie si la personne, c'est vraiment une personne qui existe, parce que j'ai eu beaucoup de faux Facebook. Et je me suis retrouvée avec des annonces par rapport, des heures à enlever des pauses de prêts d'argent, puis des annonces que indésirables. Fait que là, maintenant, je suis vraiment, là, les membres font une demande, ils ont 3 questions à répondre. Je vérifie que c'est vraiment un vrai Facebook, que c'est quelqu'un qui existe, puis par la suite, je l'accepte dans le groupe.
Micheline Goudreau, merci, c'est tout le temps qu'on a. Vous avez bien raison d'être fière de votre groupe, fière de votre terre natale. Merci beaucoup, Micheline.
Mais bonne journée.
Bonne journée à vous. Après la pause, Sylvain Guimond, Luc Denoncourt et Laurent Cournoyer.
Durant la semaine de la prévention du suicide du 30 janvier au 5 février, sous le thème « Parler du suicide sauve des vies », la population de la grande région de la MRC de Pierre-de-Sorel est invitée à s'informer et à favoriser la prise de parole pour discuter du suicide de façon préventive. Suivez les activités proposées par La Traversée, Centre de crise et de prévention du suicide, sur son site Internet et sa page Facebook. Dans la région de la MRC de Pierre-de-Sorel, sur les médias sociaux, parler du suicide sauve des vies.
Le restaurant La Bouffe-Tifaille est de nouveau ouvert en salle à manger. Toute l'équipe est prête à vous recevoir, que ce soit pour déjeuner, dîner ou souper. En raison des mesures sanitaires, il n'y aura que 50% des places en salle à manger qui seront disponibles. Pour la Saint-Valentin, le restaurant La Bouffe-Tifaille vous invite donc à réserver votre place dès maintenant en composant le 450-742-3254.
Durant tout le mois de février, optez pour un décor chaleureux, invitant et stylé avec Meubles André Beaulieu et profitez d'un rabais équivalent aux 2 taxes sur tout, sauf les électroménagers. Grâce à notre vaste sélection de mobilier de chambre à coucher, de salon et de cuisine, de matelas, vous trouverez à coup sûr ce dont vous cherchez tout en économisant. Visitez lemeublesbeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouveautés et promotions. Pour un mobilier durable et de qualité, passez chez Meubles André Beaulieu dès maintenant. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On parle des réseaux sociaux. On fait entrer dans la discussion le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Sylvain.
Est-ce que beaucoup de sportifs connus ont leur page Facebook?
Il y a beaucoup de sportifs, oui. Ceux qui sont plus connus, ben leur page Facebook, elle est habituellement contrôlée par d'autres personnes qui gèrent leur Facebook. Et pour les plus jeunes, effectivement, là, il y a beaucoup de jeunes qui, des jeunes sportifs qui sont justement sur Facebook et qui vont communiquer entre eux ou souvent communiquer vers l'extérieur leur passion du sport.
Quel service avez-vous le sentiment que les réseaux sociaux leur rendent et plus largement rendent aux communautés, aux individus, aux organisations puis aux entreprises?
En fait, c'est ça nous garde connectés. C'est un peu un avantage. Par contre, malheureusement, Facebook, autant il y a de bonnes choses, autant il y a de choses qui sont négatives. Mais effectivement, ça garde les jeunes en contact entre eux, puis ça leur permet de créer des liens qui, là, en ce moment, surtout pendant la pandémie, c'est excessivement important de garder ces liens-là entre eux.
Bon, les réseaux sociaux, à commencer par le bien connu Facebook, là, qui se classe au premier rang des 30 plateformes qui sont actuellement les plus visitées et utilisées par les utilisateurs du monde entier. Il permet, Facebook, à toutes et à tous d'avoir sa petite minute de gloire. Il démocratise en quelque sorte le vedettariat, non? Ce sont des outils qui flattent l'ego.
C'est bien, mais c'est aussi très dangereux parce que la nouvelle génération, on voit qu'il y a de plus en plus de déprime parce qu'on semble vouloir être parfait. Et tout le monde sait qu'on n'est pas parfait, puis c'est parfait qu'on ne soit pas parfait parce que c'est ça la vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ont de la détresse parce qu'ils veulent présenter qu'une image positive d'eux, de ce qu'ils sont. Et malheureusement, derrière ça, il y a beaucoup de détresse qui se cache. Et à vouloir trop démontrer un côté parfait, on oublie de dire qu'en fin de compte, on ne va pas si bien que ça parce qu'on a besoin d'aide.
Puis autant peuvent-ils, ces réseaux-là, flatter l'ego à coups de « j'aime » et « j'adore », autant peuvent-ils le détruire en situation de disette de « j'aime » et pire, en présence de commentaires négatifs?
Sylvain, la psychologie date déjà d'une centaine d'années, puis on se souvient de Pavlov, on sonne une cloche, on donne le haut-dessus, le chien va saliser, hein, ça s'appelle du conditionnement classique. On récompense, donc on récompense pour que on reste accroché parce que ça crée de la dopamine. Et quand c'est une récompense qui est positive, ça va être du conditionnement opérant, et là, bon, on veut retourner vers ça. Et c'est cette récompense un peu artificielle-là qui, malheureusement, les garde accrochés. Je conseille aux gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez le goût d'en savoir un peu plus sur ceux qui ont bâti ces réseaux-là, ils donnent une entrevue qui est excellente, qui est sur Netflix, qui s'appelle « Derrière vos écrans de fumée ». Et ça va vous donner vraiment, au départ, ces réseaux-là ont été bâtis de façon positive, mais on s'est rendu compte que partout il y a de l'argent, partout il y a des choses qu'on peut profiter puis peut-être manipuler des gens, bien, il y a des gens qui, malheureusement, vont se servir de ça pour justement nous manipuler. On devient pratiquement le produit. Et c'est ça qui est néfaste derrière Facebook.
Sylvain Guimond, c'est toujours intéressant de jaser avec vous. On dit jamais 203. Alors, je vous dis à bientôt. Tenez-vous près de votre téléphone.
C'était bien. Je vais entendre votre appel, Sylvain.
Merci. Sylvain Guimond, merci beaucoup. Bien connu des auditeurs de CJSO, Luc Denoncourt est de profession journaliste artistique. Il est notamment rédacteur en chef du bien connu magazine Allô Vedette. Bonjour Luc.
Salut.
Les artistes sont très, très présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nommez-les. Quel artiste québécois l'est le plus, croyez-vous?
Ah, ben c'est difficile à dire. Il y en a qui ont décidé de ne pas l'être du tout.
D'ailleurs, c'est
vrai? Il y en a qui se sont battus longtemps pour ne pas être là-dessus. Je pense entre autres à Patrice Bélanger, là, qu'on connaît, qui anime Sucré-Salé, entre autres, pendant l'été à TVA. Pendant longtemps, il n'a pas eu de page Facebook. Maintenant, il en a une. Guy Mongrain n'est actif que sur Twitter et n'y va qu'à coups de calembour comme on le connaît. Il vient dédramatiser un peu tout ça. Mais je sais que Véronique Loutier est très active. Je ne sais pas si c'est la plus présente sur les réseaux sociaux, mais elle est assez présente.
Est-ce que les artistes sont sur les réseaux sociaux aussi malmenés que les politiciens ou l'internaute est plus bienveillant pour l'artiste que pour le politicien?
Oh non, il est. Je ne sais pas s'il est pire, mais en tout cas au moins égal. On se souviendra qu'il y a une certaine époque pas si lointaine, quand on voulait parler à nos artistes préférés, il fallait leur écrire une lettre ou les croiser sur un plateau de télé ou dans un spectacle. Là, maintenant, c'est accessible à portée de main. Et auparavant, bien souvent, quand on parlait à un artiste, on allait lui parler quand on aimait ce qu'il faisait. Là, maintenant, on gêne plus pour dire que telle émission n'aime pas ça, que le dernier album, c'est de la boîte. On y va de façon très crue, puis on juge absolument chaque publication qui apparaît sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les trolls, là, ceux qui se cachent derrière une fausse identité puis qui fesse un peu partout. Là. Mais je prends un exemple, récemment, je parlais à Marie-Lou, qu'on connaît comme femme d'affaires avec trois fois par jour, qui me disait, à la fête de mon père, j'ai eu le goût de lui faire un repas de viande parce qu'elle travaillait dans la viande, c'est un passionné de viande, puis je me suis fait ramasser parce que j'étais pas conscient de la planète, parce que je servais de la viande, parce que c'était pas un repas végé. Alors, il y a de tout ça maintenant là, sur les réseaux sociaux.
Mais pour le commun des mortels, Facebook, ça permet d'un peu goûter au vedettariat, là, de se croire dans l'eau vedette, de se montrer sous son meilleur jour avec sa blonde, ses enfants, son chien puis son char neuf.
Oui, voilà, puis ça a créé les influenceurs aussi, avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Il y en a qui font un très bon travail, il y en a qui en font moins, on l'a vu récemment dans les médias. Donc ça donne accès, et il y en a qui en profitent vraiment, et il y en a qui ont eu des carrières grâce aux réseaux sociaux, il faut pas laisser ça de côté. Là. Roxane Bruno s'est d'abord fait connaître par ses vidéos, par ses interprétations sur YouTube, sur les plateformes des réseaux sociaux, avant qu'une maison de disque lui signe un contrat. Après ça, tout a déboulé. Mais elle est arrivée avec un premier album, alors qu'elle avait déjà un bassin de public qu'elle n'aurait pas eu autrement, parce qu'on ne sait pas si elle aurait eu, si il y aurait eu un contrat de disque éventuellement.
Comme journaliste artistique, Luc, en terminant, les réseaux sociaux, ça facilite ou ça complique votre travail?
Ça facilite, mais ça contrôle aussi. Évidemment, maintenant, les artistes qui veulent annoncer une nouvelle, ben, l'annoncent à tout le monde en même temps. Ça enlève un peu l'idée de scoop, bien souvent, parce que quand il y avait une nouvelle à annoncer, bon, évidemment, dans le potin, on pense peut-être à un bébé qui s'en vient, ben, bien souvent, c'est annoncé maintenant sur la plateforme publique. Alors, tout le monde a l'information en même temps. Alors qu'avant, ben, peut-être qu'il y avait quelqu'un de plus proche qui avait un scoop. Donc, ça facilite et ça complique à certains niveaux le travail.
Merci beaucoup, Luc Denoncourt.
Et merci beaucoup.
Merci, Luc. Salut bien. Merci. On termine avec le président, directeur général de CJSO et de Cournoyer Communications, Laurent Cournoyer. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Oui. Vous êtes personnellement très réseaux sociaux, administrateur de plusieurs pages publiques. Je crois qu'on peut affirmer que ça vous passionne, les réseaux sociaux, là.
Passionne, c'est peut-être un gros mot, mais ça m'est très utile, disons, pour... Ouais. Les pages corporatives que je gère, c'est très profitable.
Quels principaux services vous estimez que les réseaux sociaux rendent aux individus, aux organisations, aux entreprises?
Ben, en fait, si on prend par exemple CJSO, on en parlait récemment, lorsque j'ai acheté la station il y a 7 ans, on avait autour de 1000 fans là, qui étaient abonnés à notre page, et j'ai senti que ça pouvait être un outil intéressant pour amener les gens qui se promènent sur les médias sociaux, les amener à voir qu'est-ce qui se passe à notre radio locale, à CJSO, au niveau de notre programmation, au niveau de nos concours, au niveau commercial. Et bon, rapidement, j'ai vu que ça nous serait très utile. Et aujourd'hui, on est une des pages, à mon avis, qui a le plus de fans en Montérégie. Et on le voit à chaque fois qu'on l'utilise pour annoncer, que ce soit au niveau commercial, au niveau des concours, au niveau des tirages ou peu importe. Ça a un effet de levier super intéressant pour la station de radio.
Ouais, 70 000 abonnés que compte la page Facebook de CJSO. Comment vous avez réussi ça? Il y en a peut-être qui veulent votre secret, là, monter à 70 000 là, dans une région qui ne compte même pas 70 000 personnes.
C'est toutes sortes d'efforts. On a acheté de la publicité sur ces médias sociaux-là pour augmenter le nombre de fans. Mais l'effet de levier le plus important, ce fut des tirages de billets, de joues de Granby, ou tout simplement. Je me souviens, en mai 2015, au tout début, pour avoir un effet de levier, la saison du Zoo de Granby commençait. On avait des billets familiaux, là, 4 billets. Je fais tirer ça pour le plaisir vers 18h30 et on atteint 600 000 personnes en quelques temps. Vers 20h30, je décide de refaire un autre tirage. On atteint 1,2 million de Québécois qui ont participé, qui ont été atteints par le concours. Je dis wow! Et on demandait aux gens de s'abonner automatiquement à notre page. Alors, ça fait un effet levier. Rapidement, on est monté à quelques dizaines de milliers de fans. Mais ça en est un truc. Mais outre les tirages, on peut sponsoriser, là, en fait, acheter de la promo ou de la pub pour augmenter le nombre de abonnés.
Ça va rapidement. Est-ce qu'on exagère la dépendance que les réseaux sociaux peuvent créer, la diffamation ou l'intimidation qu'on y retrouve, ou est-ce qu'on s'en soucie trop peu?
Ça, c'est l'endroit de la médaille. On tente, en tout cas, à CJSO, de contrôler autant que possible ce qui se dit, dans le sens que quand ça n'a pas de sens, il faut faire un tri. Plusieurs membres de l'équipe y contribuent, mais c'est un travail incroyable, surtout quand on a autant de réactions. On le voit par la question du jour avec Éric Bernier le matin. On peut avoir des centaines de personnes qui s'expriment, tant que c'est fait dans les règles de l'art. Mais c'est là qu'est le problème. Les gens, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri. Ils peuvent commenter sans avoir de base publique où les gens s'expriment. Mais je pense qu'ils doivent le faire dans le respect. Puis on a une responsabilité de contrôler autant que possible ce qui se dit.
Merci beaucoup, Laurent Combré. Écoute, il est déjà 13 heures. Merci infiniment. Merci à l'ensemble de mes invités. La semaine prochaine, on va parler de sport d'hiver. Bonne semaine, tout le monde.